d'ailleurs, qui demandaient le paiement de leurs heures de nuit. Eh bien, nous sommes allés en Cour européenne. Alors, j'espère que les mineurs vont faire la même chose ou les enfants de mineurs. Au revoir, c'était Dominique à Annecy.
Je viens d'entendre l'émission de Daniel Mernet et je suis encore terriblement émue parce qu'en 1948, mes parents, nous étions quatre enfants à la maison, des petits, moi j'avais 11 ans, eh bien, on a accueilli un petit enfant qui venait un gosse de mineur, parce que bon, mais on est des ch'tis aussi, hein, enfin la moitié de ma famille l'est. Je suis encore très émue. Merci à Daniel et qu'il continue. Bravo. Bravo, j'ai que ça à dire. Et merci à lui. Je ne connais plus même le prénom de ce petit. Je crois qu'il s'appelait aussi Daniel, mais peut-être que je confonds, vous savez, il y a quand même un moment. Au revoir et que tout aille au mieux. Gardez un courage d'enfer, comme moi. Je vous embrasse tous.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, évidemment, pour ce dernier message qui me touche beaucoup, parce que j'étais très petit à l'époque. Mais je me souviens, dans ma famille, on avait effectivement accueilli un de ces enfants mineurs. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, c'est la suite. Deuxième volet de l'épopée des mineurs de 1948. Cette grève terrible, avec ce très long combat de ceux qui ont été licenciés pour fait de grève. Aujourd'hui, donc, deuxième volet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Sophie de Cannes. Ma mère était tchécoslovaque. J'étais en Tchécoslovaquie le 21 août 68 quand les chars soviétiques sont arrivés. Alors, Ambroise Croizat, la sécurité sociale, les allocations familiales, tout ça, ce sont des acquis magnifiques, mais il est vraiment dommage que cet acquis magnifique soit lourdement entaché par l'horreur stalinienne que le Parti communiste français a cautionné pendant 70 ans.
Ah, je suis toujours très étonnée que ces communistes qui ont si bon cœur avec leur CGT, au bonheur de l'ouvrier qui est surtout le bonheur de l'orchestre, n'est-ce pas, ne parle pas du génocide des Russes qu'ils aimaient tant et à qui ils étaient tellement dévoués. Ça, vraiment, pour moi, ça reste un mystère. Voilà, il y a de quoi méditer.
Merci pour tous ces messages, chers.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue, le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre dû.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Ben oui, c'était mené par les communistes, mais il n'y avait qu'eux qui pouvaient. Il n'y avait qu'eux qui nous écoutaient. Hein, c'est ça qu'il faut dire, mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Moi, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, quoi, acheter du pain, hein, c'est tout.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés, ils ont contre l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Le rapport des forces est totalement disproportionné.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre, hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, là je me trouve à Neuilly-les-Mines, en plein cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, à une vingtaine de kilomètres de Lens. Là, je me dirige vers une des anciennes fosses d'extraction de nœuds, là d'où était extrait le charbon jusque dans les années 60. La fosse est aujourd'hui entièrement désaffectée. Toutes les installations minières ont été démontées. Je crois que ça sert d'entrepôt pour les bus maintenant. Mais c'est là que travaillaient Éloi Vasseur et Cyril Fruchard en 1948. Ils avaient alors une vingtaine d'années et ils ont connu les grandes grèves de 1948. Des grèves très dures, qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque et qui ont été réprimées dans le sang. Suite à ces grèves, 3000 mineurs avaient été licenciés, emprisonnés, expulsés de leur logement et bannis des houillères nationales. Et il faudra attendre ces jours-ci pour que la justice réintègre 17 de ces anciens mineurs dans leurs droits en reconnaissant le caractère illégal de ces licenciements. Formidable victoire qui nous a donné envie d'en savoir un peu plus sur ces grèves effacées de la mémoire nationale. Alors Éloi Vasseur et Cyril Fruchard, eux, n'ont pas été licenciés suite à ces grèves. Ils ont repris le travail et ils sont devenus porions, c'est-à-dire chef au fond de la mine. Alors là, on passe devant le musée de la mine de Neuilly-les-Mines, la mine image, ça s'appelle, et l'ancienne fosse de nœuds se trouve juste derrière.
Alors, grève insurrectionnelle ou non, y avait-il ou non la main de Moscou dans la voix et dans le cœur des mineurs de 1948? Grèves qui se sont produites non seulement à Lens, mais dans d'autres bassins miniers. Mais c'était exclusivement les mineurs qui étaient en grève, qui furent en grève pendant ces longues journées d'octobre et de novembre 1948. Grève insurrectionnelle ou non, la question se pose toujours. C'est bien vieux, c'est des histoires anciennes, ces pages sont tournées, encore que, on voit que pour ce qui concerne la reconnaissance du droit de ces mineurs, c'est un combat extrêmement difficile et le pouvoir politique en France, l'État est extrêmement dur envers ces mineurs qui pourtant furent les héros de la classe ouvrière en leur temps. Et on évoquait, cette auditrice évoquait en commençant comment elle avait dans sa jeunesse souvenirs de jeunes mineurs, d'enfants de mineurs qui avaient été accueillis dans la région parisienne, dans des familles. Effectivement, à l'époque, il y avait un grand élan de solidarité envers ces mineurs qui faisaient une grève insurrectionnelle ou non. Je ne crois pas que tout le monde se posa la question, mais en tout cas, la solidarité a admirablement fonctionné. Et notamment dans la région parisienne, beaucoup de familles ont reçu, ont accueilli ces enfants de mineurs via la CGT, via le Parti communiste, mais via aussi les églises. L'église catholique était implantée fortement encore dans ces époques, dans la banlieue rouge, on appelait ça la banlieue rouge à l'époque, et il y avait tout un courant de prêtres ouvriers et de solidarité générale qui avait fait que beaucoup de familles, dont la mienne, j'en parlerai peut-être plus précisément plus tard, nous avions reçu ces enfants de mineurs qui avaient, eh bien, à l'époque, le même âge que nous. C'est une des raisons qui nous tiennent ensemble, qui nous tenaient ensemble et qui nous tiennent ensemble. Jusqu'à 16h, dans la base, j'y suis, grève des mineurs de 1948.
Jour et nuit, Annie Cordy.
tandis qu'ils sont tout au fond du puits.
1961.
Nuit et jour, là-haut, nous attendons leur retour. Sur leur front, noirci par la sueur et le charbon, les étés jamais n'ont le temps de s'arrêter. Les gueules noires savent qu'il faut passer la vie sur le carreau. Au fond de la mine, bien souvent, il rêve à leur premier printemps. Au chemin, noyé dans la brume du matin, sortant les corons de leur sommeil. Au vent, au soleil, au ciel.
Actualité française.
Août 1944.
Octobre 1948.
Une immense flambée d'allégresse populaire s'étend sur le pays libéré. Le cauchemar est fini. La patrie va revivre. Hélas, les feux de joie s'éteignent vite. Le refus de l'occupant a laissé à nu trop de ruines. C'est alors que la France en péril lance son premier appel. Pour reconstruire la France, il faut d'abord du charbon. Et les quelques 320 000 mineurs répartis dans les 7 bassins houillers français répondent aussitôt présents. Un magnifique esprit d'émulation souffle dans le monde souterrain. Les mineurs savent que le sort de la France est entre leurs mains. Et peu à peu, les conditions d'exploitation s'améliorent. Dans certains puits, la mécanisation de l'abattage ouvre au dur métier de la mine des perspectives nouvelles. La machine est en marche, la vie reprend dans les usines, la victoire économique est imminente.
Vasseur Éloi.
Et vous, vous appelez comment?
Fruchard Cyril.
On est du même âge, parce que lui est du mois de juillet. Non, c'est moi du mois de juillet, mais lui est du mois de septembre, 1924.
Alors, on a 87 ans.
Alors, on a fait 33 ans de service là-dedans.
Hein. Ici, là, cette fosse-là, c'est quelle fosse ici?
C'est la fosse 3 de nœud. Moi, j'étais agent de maîtrise une nuit, j'étais pour les réparations. Agent de maîtrise, c'est contre-maître. On a démarré comme des bleus, quoi. Hein, c'est vrai. Hein.
Vous avez commencé à quel âge?
À 14 ans, ici. Et alors, nous, on est venus à 14 ans, j'étais en 39, en 1939. Aussitôt que j'avais le certificat d'études, hop. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas de chômage. Hein. On ne parlait pas de chômage. Hein. Au contraire, on demandait des gens. On allait les chercher. Moi, j'ai connu un garde, mes parents. Mais quand est-ce que tu vas embaucher ton garçon? Mais j'avais 13 ans. Hein. Alors, c'est vrai. Hein. Ah, ouais. Un garde qui me dit, il a demandé à mon père. Alors, on est descendu comme ça. Et puis, après, on a pris l'habitude. J'étais père en fils, et puis j'ai tout. Hein. Ensuite, à 18 ans, on partit à l'abattage. Puis ce qui se faisait drôle, parce que dans la galerie, au fond, j'étais tout droit, la galerie principale. Vous voyez tous les mineurs partir au loin, comme la route nationale. On n'a pas eu peur, mais enfin, on n'était pas tellement rassurés. Hein? Des fois, on avait un kilomètre, deux kilomètres à pousser des verlets dans la main. Mais on mettait la lampe dessus, puis on le voyait. C'est une question d'habitude. Il ne fallait pas rigoler, même au fond. Hein? L'ingénieur... Et même les porions, hein, j'étais toujours derrière les ouvriers. Hein. Et le rendement, attention, le fameux rendement, hein, parce que
produit, hein.
Ouais, c'est pour ça que pendant, juste après la guerre, pour relever la France, on a commencé à faire l'abattage ici, il y avait un grand panneau là.
Sur ce bâtiment là?
Couvé là-dessus, pour les 100 000 tonnes. Vous savez, une grande aiguille. Alors, soit l'aiguille, elle baisse ou elle monte, vous savez l'aiguille. Alors celui qui a fait, vous avez un mot, il n'y a plus de mètre carré, ils ont offert un vélo.
Pour le meilleur ouvrier, celui qui avait fait le plus de charbon, il avait un vélo?
Il avait un vélo. C'est comme ça que ça marchait. Nous, ma famille, c'était tout mineur.
Tous des mineurs?
Ah ouais, tout mineur, ouais. Mais ils sont tous décédés, c'est dit, gosse. Mais comme moi, j'ai plus de famille, si vous voulez. Tous mes frères, mon père, et puis mes oncles, ils sont tous morts. C'est dit, gosse, ils sont tous morts, c'est dit, causé, hein, en vrai. Hein.
Les derniers Indiens, les derniers indigènes de la mine, voilà leur voix. Si on bossait bien, on mettait sa vie en danger, sa santé, ben parfois on pouvait, mais c'était pas sûr, gagner un vélo. C'est cette mémoire-là que nous avons tenu absolument à enregistrer, pour que ça persiste, ça demeure. Et puis, à travers, évidemment, cette lutte et cette histoire qui a duré 63 ans qu'on a évoqué, cette victoire finale des mineurs reconnue par l'illégalité de la punition qui a été la leur, c'est-à-dire les licenciements. On va y venir, mais d'abord on est avec Éloi et Cyril.
Bah alors, figurez-vous, ici c'était les bureaux. Hein.
Là, sur la droite, ce bâtiment-là, c'était les bureaux.
Les bureaux de l'ingénieur, et puis tous les porions qu'on appelle, c'était les contremaîtres, quoi. Hein. Il faut se voir, il y a jusqu'à 400 bonhommes, hein, ça se rappelle. Ah oui, parce qu'au matin, des fois, il y avait 400 matin, puis autant l'après-midi. Hein. Et après, il y avait tout un groupe de nuit qui fait les réparations, puis le soutènement, quoi. Hein. C'est comme ça marche.
Et alors, vous arriviez le matin, vous passiez cette grille, là, ici?
Oui, on partit tout de suite, là, au bain douche, là.
Alors, ici, là, ce bâtiment?
Tous les bâtiments, là, c'est les bains douches. Alors là, je vais vous expliquer, bon.
Alors là, on fait le tour. Là. Oh là là, il y a des trous dans le bâtiment.
Ah ouais, c'est vieux. Allez, rentrez, ça va être pas dans le bruit. Oh! Toutes les poutrelles qui sont là. Mais figurez-vous, il y avait tout le long ici, il y avait des moulettes, des petits trous, avec un câble ou une corde, avec un crochet en bas, là. Alors en arrivant, on descendait, le crochet, avec les vêtements sales. Alors on descendait pour s'habiller, puis après, bon, on remontait nos vêtements propres, puis là, on partait.
Ça s'appelait la salle des pendus, c'est ça?
C'était la salle des pendus, hein. C'était tout des crochets, peut-être 1000 crochets avec des cordes. Et là, quand on remontait du fond, la reine, on descendait, on mettait les vêtements propres à côté, puis on mettait les vêtements sales, parce qu'il était tout en sueur, il était tellement chaud, 30 degrés, 35 des fois. Hein.
Au fond de la mine?
Au fond de la mine. Alors, comme c'était fort chaud aussi, le lendemain, les vêtements étaient secs. Ah oui, c'était sec. Bon, des fois, on était 2-3 jours les mêmes vêtements, hein. J'avais une odeur. Et tout le long, oui, vous voyez qu'il y a des carrelages, là.
Ouais.
C'était tout des douches. Jusqu'au bout. Alors, les anciens, les vieux, j'étais par ici. Et nous, les jeunes, j'étais séparés, nous, les dans le fond. Là, j'ai tous les jeunes. Alors, il y a des fois 500 là-dedans, hein. Il faut se laver, hein, parce que c'est tout là qui avait fini, hop. Il n'y a qu'à le remplacer, quoi, c'est ainsi. Pour sortir, tout nu, quoi.
Aujourd'hui, la bataille du charbon est devenue un conflit social d'une extrême gravité.
Actualité française.
Sur les bassins houillers, la grève s'étend et les frappes l'un après l'autre de paralysie.
Novembre 1948.
Très vite, le conflit entre dans une phase critique. À Béthune, des échauffourées mettent aux prises des milliers de grévistes et les groupes de CRS qui ont pour mission d'occuper le bassin. Situation plus dramatique encore dans le bassin de la Loire. À Firminy, la possession du puits Campfort se dispute au cours d'une véritable bataille rangée. En présence de ces graves événements, le gouvernement fait procéder à l'occupation des mines. Mais la machine à produire le charbon reste inerte. L'effort de redressement sera-t-il réduit à néant ? Le charbon est le nerf de l'économie française. Cette primauté fait la force du mineur, mais elle engage aussi sa responsabilité. Au-dessus des opinions, au-dessus des revendications, si légitimes soient-elles, il y a la France qui veut vivre.
Vous avez connu les grèves en 1948 ?
C'est-à-dire, mais, oui, nous connu, mais j'étais déjà là-dedans, hein, en 1948, c'est-à-dire une quinzaine, 20 ans. Hein. Ah oui, parce que là, attention, tout est fermé. Hein. Il y avait ceux qui avaient un papier pour entrer. Vous savez, même les chefs, ils avaient besoin de rentrer, mais on ne descendait pas. Hein. Parce que là, il y avait les délégués et puis tout le groupe des grévistes. Alors, pas moyen de passer. Hein. De temps en temps, on nous amenait ravitaillement parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors, il y avait un boulanger qui me donnait du pain. Tout le monde s'est installé dehors, attention, dehors. Hein. Alors donner du pain, de l'eau, ou bien du vin. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça marche. Mais là, il n'y a personne qui est passé. Hein. On parlait l'ingénieur, des fois tout juste. Hein. C'était tous les grévistes qui se mettaient dans les bureaux. Hein, alors. Il ne fallait pas broncher. Hein. Oh, ouais, ouais.
Vous étiez gréviste?
Ben nous, on est obligé de être gréviste. Hein. On n'avait pas le droit de passer. Hein. Même si on n'est pas là, ben, restez chez nous, hein, parce que c'est pas la peine de chercher la bagarre, parce que premièrement, il fallait pas traîner, là, hein. À qui voulait passer, il te poursuit, hein. Ah ouais, leur poursuivait, hein. Ah ouais, pas le droit d'entrer, hein. Non, non. Même les piquets de grève, ils ont pas le droit d'entrer, attention, hein. Les piquets de grève, ils se trouvaient derrière, là, la rue, hein. C'est ça, si. Parce que là, il y a personne, là.
Et vous vous souvenez pourquoi il y avait eu grève à cette époque?
Ben, souvent, j'étais grève, c'était toujours pour le salaire. J'ai toujours fait grève pour avoir 4 sous, vous voyez. C'est arrivé souvent des grèves, c'était toujours pour les salaires. Hein. Alors, ouais. Il manquait toujours quelque chose, vous la reconnaître. Hein. Du pain, ça va, du pain, mais il faut avoir des sous pour avoir du pain. Il y avait certains coins, bon, ici en eux, hein, mais comme on a vu, les corons, les routes, ils étaient fermés, ils avaient posé des grilles. Les compagnies, les mines, ils avaient mis des grilles. Et quand il y avait un coup dur, ils fermaient les grilles.
Ah.
Ça rappelle quand il y a eu des grilles, là, les cités à Mazaguerpe, ah, ouais. À Bully.
Ah, ça aussi, il y avait des cités fermées.
Oui. Alors quand il y avait une grande grève, ben, les chefs commandaient aux gardes d'aller fermer les grilles. Comme ça, les mineurs, ils n'étaient pas prisonniers, si vous voulez, mais ils ne pouvaient pas sortir.
Ah oui, hein.
Et à un moment, les grilles, ils se disent, ben, c'est des prisons dans ce coin-là. Non, non. J'étais fait exprès. Non, oui.
Les grilles pour maintenir les mineurs dans leur coron, dans leur quartier. Témoignage de Cyril et Éloi. Et des précisions avec Rolande Trempé, historienne, spécialiste de l'histoire des mineurs.
Rolande Trempé, donc, historienne et spécialiste de l'histoire des mineurs. La grève de 48 est une grève purement de mineurs. Parce qu'il y a eu les grèves de 47. Auxquels les mineurs, bien entendu, avaient aussi participé. Mais ils n'avaient pas été les seuls. Tandis que la grève de 48, c'est une grève spécifique des mineurs. Et elle gagne tous les bassins. Et elle est provoquée par un des points essentiels qui concerne vraiment les mineurs, c'est le problème de la sécurité. De la sécurité sociale minière. Et c'est le problème du statut des mineurs. Or, le statut des mineurs avait été une des grandes conquêtes à la libération obtenue par les mineurs, qui avait été un groupe professionnel qui avait pris part très très largement à la résistance. Alors le statut du mineur, c'était un statut très très important, parce que c'était la première fois où tous les droits que les mineurs pouvaient avoir pour protéger leur santé en particulier, et leur carrière, étaient étroitement définis. Or, les décrets Lacoste, qui vont provoquer la grève, portent atteinte justement au statut des mineurs. Et c'est ça le vrai motif de la grève. Donc ça concerne, si vous voulez, la grève, elle concerne tout le monde. C'est un problème de retraite minière qui est posé. Et c'est pour ça que ça va donner lieu à de telles manifestations qui ont une telle ampleur, parce qu'elles concernent les mineurs en activité, mais aussi les veuves de mineurs qui touchent une partie de réversion de la retraite, mais aussi le mineur retraité, et voilà. Alors l'atteinte à la sécurité sociale minière, c'est tout ça qui est en cause. Alors c'est elle qui est directement atteinte par les fameux décrets Lacoste, qui est un ministre du travail socialiste par-dessus le marché. Alors, dans ce gouvernement, autrement dit, le ministre de l'Intérieur, c'est Jules Moc, socialiste, et le ministre du Travail, etc., c'est Lacoste, socialiste. Alors vous voyez tout de suite comment la grève prendra un caractère politique, en plus du reste. Puis alors, il y a un anticommunisme absolument effréné de la part de Jules Moc, qui voit un complot organisé au service des Russes. Parce que les dirigeants de la Fédération du Sous-Sol sont, sauf un, et encore, j'en suis pas sûr, ils sont presque tous communistes. De là à imaginer que la Fédération du Sous-Sol est au service de... Et c'est ce qu'il va faire. Alors, il est d'un anticommunisme incroyable. Et c'est ce qui explique la virulence avec laquelle il va intervenir.
Il y avait eu le coup de Prague aussi, juste avant, non ?
Ben oui, il y a eu le coup de Prague. Tout le monde craint à nouveau un coup de Prague.
La grève des mineurs, commencée il y a un mois, est près de finir.
La chaîne nationale.
Dès le début de la semaine prochaine.
5 novembre 1948.
Nos charbonnages fonctionneront à plein.
Robert Lacoste, ministre de l'Industrie.
Cette perspective porte à son comble la rage de destruction et le désir de représailles des plus fanatiques et des plus orgueilleux parmi les dirigeants grévistes. Chassés des puits et de toutes les installations dont ils défendaient l'accès à tous ceux qui auraient pu en empêcher la détérioration automatique, ils se livrent maintenant à des actes de sabotage direct. Cette misérable agitation d'hommes qui se sentent perdus ne doit faire hésiter personne et le gouvernement a le devoir de protéger ceux qu'elle menace. De nombreuses arrestations ont été opérées pour entrave à la liberté du travail. D'autres pour voie de fait et actes de représailles. Il est inutile de dire que ceux qui ont attaqué les logements de leurs camarades de travail seront punis par la justice avec une exceptionnelle sévérité. Ils ont en effet dans la réprobation publique une place encore plus grande que celle des saboteurs qui, eux aussi, seront sanctionnés durement.
Alors voilà, là on se trouve à Los Angeles, à quelques kilomètres de Lens, et on va aller retrouver Madame Colette Lebrun, qui fait partie des 17 plaignants dont les licenciements ont été reconnus nuls par la cour d'appel de Versailles récemment. Madame Lebrun est une ayant droit, parce que son mari est décédé, voilà, 37 ans. Alors, on arrive dans une petite cité. Bah, c'est toutes les mêmes maisons sur un étage. Voilà, ça doit être celle-là avec la porte rouge. Allez, on se met.
J'arrive.
Bonjour.
Ah, ça y est, vous voulez arriver. Ah ben c'est bien. C'est bien. Avancez par là.
Alors on arrive chez Colette Lebrun, mais il faut revenir un petit peu sur la voix de Robert Lacoste qu'on entendait, le ministre de l'Industrie de l'époque, de ce gouvernement de 1948. Robert Lacoste illustrera par la suite en Algérie, dirigera une répression particulièrement violente dont la torture sera un des aspects, la torture systématique. Revenons à Colette Lebrun, donc, vous avez compris, qui fait partie de ces ayants droit qui, au terme d'une très très longue lutte, ont fini par faire reconnaître et leur dignité et leurs droits.
Les grèves de 48, les mines étaient occupées. C'est impressionnant quand même quand on voit la police à la mine au lieu de travail quand même. Et alors on était, mon mari s'est fait arrêter, a été arrêté bêtement parce qu'on était allé à une, on avait de nos copains qui faisaient une réunion. On était allé et puis avec un autre qui était comme nous, on se dit on va revenir sur le côté comme ça il n'y a pas d'ennui, on rentre chez nous. Ah oui, le lendemain il était arrêté avec tous les autres. Il est embarqué quoi, il est allé au piquet de grève et puis hop à Béthune. Sans jugement, sans rien du tout. C'est après que ça a été jugé. Il fallait voir ça. C'était de la folie, de toute façon. On ne peut pas dire autrement. Alors quand même, il y avait une histoire d'arrêter la cellule communiste quand même aussi. Hein. On n'était pas des fous, on n'était rien de tout ça. On était des gens calmes. Hein. Et puis, ah ben oui, c'était mené par les communistes. Mais il y avait qu'eux qui pouvaient. Il y avait qu'eux qui nous écoutaient. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Moi, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, de quoi acheter du pain, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Et il fallait voir la prison de Béthune, hein. C'était plein, plein, plein. Il y avait des bus pour aller les voir. On allait chercher l'autorisation de les voir la veille. Et le lendemain, on allait à la prison. Vous auriez vu ces bus, c'était fou. Et quand vous voyez les premiers mineurs qui repartent au travail avec un policier ou un soldat et le fusil, c'est quand même terrible. Ah oui, c'était une ambiance. Hein. Une fois, on allait avec... on était trois copines, on va dire, que les maris faisaient grève. Nous voilà partis, mais ils avaient recommencé à travailler, certains.
Et alors nous, tranquilles, on n'était pas en train de broyer, rien du tout, on partait faire un tour. Et il y en a un qui revenait de travailler, il sort sa hache, je sais pas pourquoi, parce qu'on n'allait pas l'attaquer, pauvre homme. Et il dit, n'approchez pas. Et aussi vite, il y a quelqu'un qui l'a dit, lui sans doute, et on a passé au tribunal.
Vous ?
Oui, 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 oui. J'ai pas été embarquée, mais je suis passée au tribunal. J'ai eu 8 jours avec sursis. Et il a pensé qu'on venait l'attaquer en somme, puisqu'il venait du travail, alors qu'il y avait encore, les maris qui étaient en prison. Ça crée ça. Une situation comme on avait, tout le monde pouvait dire quelque chose de quelqu'un. Si ça pouvait passer, ben, c'était bien. Mais il y avait plein de dénonciations, hein. Nous, c'était une dénonciation bête, hein. Parce que cet homme-là, on n'allait pas l'attaquer du tout. On n'était pas des voyous, hein, pas du tout, hein, comme on a voulu un petit peu le faire croire. Hein, pas du tout. Des gens bien tranquilles, bien embêtés. Alors mon mari, donc, ben, a fait son mois de prison, puis après dehors. Hein. On est prié de quitter le logement, bien sûr, tout ça. Hein, oui, oui. Donc on a déménagé, on est venu habiter à Le Sangolais, une maison dans les champs, là, sans eau, sans électricité. Enfin, il y avait un puits, mais il était tari. Et puis on est resté là un moment, donc j'attendais mon troisième enfant. Ah oui, on avait le jugement qu'il fallait partir. Et défense, après, il s'agit de trouver du travail, après, parce que vous ne pouvez pas travailler sur le terrain des mines. Alors qu'est-ce qu'il y a ici, sinon, le terrain des mines ? C'est là que c'est dur, hein, puis ça dure un temps. Hein. Et alors on se retrouve avec rien, quoi. Et comme on dit, la vache enragée, on en a mangé, hein.
Des fleurs qui sont de la sueur, c'est le jour et la nuit. Des cœurs qui battent le malheur, c'est le four et la suie. Épuisé, porté, nettoyé, astiqué, récuré, enfin soufflé. Trouver le courage de pomper, épuisé, porté, nettoyé, astiqué, récuré, enfin soufflé. Femme de mineur, femme de labeur, sans rancœur, donne leur cœur. Femme de mineur, femme de seigneur, sans rancœur, donne leur cœur. Telle est la loi, faire couler chez son voisin le temps passé, des gros chagrins, des petits câlins. Femme de mineur, femme de labeur, sans rancœur, donne leur cœur. Femme de mineur, femme de mineur, femme de seigneur, sans rancœur, donne leur cœur.
Bah, qu'est-ce qu'on dit, les gars?
Tu veux pas arroser?
Alors vous, vous êtes guide ici au musée de la mine, c'est ça? Rappelez-moi comment vous appelez.
Monsieur Duty. Avant, on respectait l'outil de travail, hein, c'est-à-dire que une mine, bon, qui était en grève, on laissait passer du personnel pour entretenir la mine. Mm-hmm. Hein, bon, c'était bien souvent des porions. Bon, ces gens-là étaient là, bon, ils faisaient le tour des quartiers, remplacer les bois qu'il fallait changer, s'occuper des pompes, l'exer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fond, il y a de l'eau, hein. Voilà. Mais par contre, en 48, presque tout de suite, pour pas qu'il y ait du personnel qui descende, ils ont balancé des berlines dans le puits, hein.
Ils ont balancé des berlines?
Ah ouais, pour escater le puits. D'ailleurs, la troupe, bon, il y a deux sortes de cloches. La troupe est intervenue d'abord pour faire bouger le piquet de grève, pour laisser entrer le personnel qui voulait travailler.
C'est la version
des ouvriers, des syndicats, c'est normal. Bon, puis par contre, il y a une autre version. Il paraît que la troupe est intervenue et les CRS à partir du moment où il y a eu les berlines qu'on a jetées dans le puits. Parce que ça a été assimilé et c'était du sabotage. Hein.
Pendant les grèves, là, j'étais au spécial à ce moment-là, vous savez. Alors, ils devaient remettre en route
pas la possibilité de la bourser. Et les femmes de mineurs qui étaient par là, et c'est encore pire que les hommes. Ils ont parti dans la nuit, ils ont ouvert les barrières, par haut, en bas, au glissage, on appelle ça. Ils ont cassé les cadenas, ils ont poussé les berlines dans le puits. Hein. Puis les mineurs devaient recommencer, et le lendemain. Ils ont dit, bah, c'est pas la peine de pouvoir retourner chez vous, on peut pas faire marcher parce que le car, ils tombent plus, les berlines étaient tombées dans le puits. Et moi, j'ai de la famille, une famille d'un oncle. Il était balancé de la mine. Alors, il était, l'ingénieur, il dit, écoute, c'est pas toi, il dit, je le sais. Mais il y a quelqu'un de la famille qui était dans le groupe. Alors, je peux pas te reprendre. Pourtant, j'ai un chef de taille. Alors, il était obligé de partir. Alors, il était chômeur pendant 5-6 mois.
Votre oncle?
Oui. Et ensuite, ils ont demandé, ils ont été rembauchés dans là-bas, à Rambert. Il y a plusieurs. Ils ont été obligés de partir à Rambert pour retravailler, pour finir leur carrière, parce que des fois, il y avait 25 ans de travail déjà.
Parce que soit eux, soit des membres de la famille avaient participé à ces grèves.
Ils ont participé à l'action, comme on dit. Eh bien, ils ont licencié. Pourtant, des bons ouvriers. Hein. Hein. Il y a eu de la chance quand même de pouvoir faire sa carrière. Hein. Parce qu'il y avait fait que 20 ans, il n'y a pas eu grand-chose comme retraite. Hein. Alors, ils ont été obligés de déménager. Hein.
Ils ne retrouvaient pas de travail dans le coin?
Non. Il n'y a pas de travail. Il n'arrivait pas à être embauché dans les mines. Parce qu'il était le groupe de nœuds. C'est, la bourse était le groupe de nœuds. J'étais tout noté au rouge, tous les gars. Tous les gens qu'on jette étaient nommés au rouge.
Au
et
rouge.
Tous les communistes. Eh bien, il n'y a pas de pitié. Hein.
Et vous avez été au Parti communiste aussi ou?
Non, moi, non, j'ai pas pu, hein, je ne peux pas. Parce que j'étais nommé surveillant jeune. Il fallait pas parler des syndicats, hein, au contraire. Parce qu'on aurait été balancé aussi, hein, attention. Ah oui. On ne nous aurait pas pris, premièrement. On ne m'aurait pas pris hein, comme agent de maîtrise. Hein. Alors, j'ai eu du pot. Je ne savais pas que mes oncles étaient dans le parti. Sans quoi, j'aurais jamais été nommé. Hein. Je n'ai jamais dit que j'étais mes parents, là, mes oncles. Là. C'était des frères à ma mère, quoi. Ils auraient su que j'étais parti de la famille, j'étais ainsi. Hein. Ils auraient dit, bah, c'est un communiste.
Si. Pour la troisième fois en trois semaines,
la chaîne nationale,
je reprends la parole,
3 novembre 1948,
c'est tout d'abord pour remercier les mineurs d'avoir entendu mon appel d'il y a 10 jours.
Jules Moch, ministre de l'Intérieur.
Et les services d'ordre d'avoir témoigné de discipline et parfois d'abnégation. Mineurs, dans votre immense majorité, vous avez compris que de mauvais guides vous conduisaient à la catastrophe pour des intérêts qui n'étaient pas les vôtres ni ceux du pays. Vous avez cessé d'opposer une vaine résistance aux services d'ordre dégageant les puits en vue de les sauver. Vous avez clairement vu que notre devoir vis-à-vis du pays était à la fois de défendre vos puits contre le sabotage voulu par la CGT communisée et d'assurer la liberté du travail aussi sacré que le droit de grève. À l'heure où je parle, dans toute la France, aucun puits n'est plus occupé par un piquet de grève. Le gouvernement, en assurant la liberté du travail, a jeté bas l'édifice de contraintes et parfois de terreur que le Parti communiste dressait dans le pays.
Voilà, le socialiste Jules Moch, 60 000 CRS et soldats envoyés contre 15 000 mineurs en grève dans les 6 bassins miniers du pays. Une grève très dure, insurrectionnelle ou non, le point de vue de l'historienne Rolande Trempé.
Le gouvernement parlait de grève quasi insurrectionnelle.
Insurrectionnel, oui, bien sûr, le mot est toujours utilisé, mais insurrectionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ferait la révolution, il n'en était absolument pas question, pas le moins du monde. Il était question pour eux, ils avaient engagé la bataille, ils voulaient la gagner, puis c'est tout. Et les mineurs tenaient au statut du mineur comme à la prunelle de leurs yeux. Pourquoi ils combattaient depuis toujours, qu'ils avaient arraché très difficilement déjà en 46. C'était tout proche. Je crois que ça explique une partie de la virulence aussi de cette grève. Autrement dit, il y a l'agression de la part du ministère de l'Intérieur, c'est Jules Moch. D'abord, ils ont envoyé l'armée. L'armée m'est envoyée avec des mitraillettes, véritablement du matériel de guerre. Mais il y a aussi, du point de vue des mineurs, qui sont d'anciens combattants, pour la plupart d'entre eux résistants, il y a aussi une volonté de combattre certaine, quoi. Et alors, ils vont faire des barricades. Ils vont se barricader sur les puits, mais à l'extérieur. Mais ils vont assurer d'abord la sécurité. Ce qui veut dire qu'ils autorisaient donc des équipes à descendre au fond. Pour assurer la sécurité, ça veut dire pomper l'eau, que les mines ne soient pas ennoyées. Vous voyez ? Et puis, devant l'agressivité, quand les premières troupes, va y avoir d'abord la première occupation des troupes en Lorraine, où il va y avoir un mineur abattu, tué, en représailles contre ça, la Fédération du sous-sol va déclarer qu'elle n'assurera plus la sécurité. Autrement dit, qu'elle va laisser les puits s'ennoyer.
C'est ce qui s'est passé ?
Eh bien, il y en a eu, oui. Et alors, Jules Mogg va dire qu'il fait défendre ça pour protéger précisément les mineurs, car si les puits sont noyés, eh bien, le travail des mineurs et les mineurs vont en pâtir. Autrement dit, Jules Mogg donne ça comme explication. La grève a démarré d'accord avec FO, d'accord avec la CFTC, et à partir du moment où la CGT a déclaré qu'elle n'assurerait plus la sécurité par mesure de représailles à ce qui s'était passé aux mineurs morts en Lorraine, FO et la CFTC vont traiter séparément avec Lacoste. La CGT va donc rester toute seule, et toute la direction de la Fédération du sous-sol est communiste, pratiquement. Alors, vous voyez comment il est facile de faire l'amalgame. Et c'est ça qui va déclencher le caractère si âpre de l'occupation, plus l'avenue, évidemment, l'occupation militaire du bassin. Vous voyez ? Alors, à partir de ce moment-là, la lutte, c'est une véritable guerre qu'il y a entre les mineurs grévistes et l'armée, quoi. Ah, c'était une véritable guerre.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus. Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt.
Actualité française, 14 octobre 1948.
Dans les chemins de fer, ébullition. À Chalon-sur-Marne, les cheminots ont débrayé. À Épernay, les trains ne passent plus. Des convois sont arrêtés, des lignes détournées. Mais le drame de la grève, c'est Merlebach. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police. Devant le puits numéro 5, il y a eu des blessés. De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime. Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
La répression fut féroce. 60 000 hommes de troupes envahirent les bassins houillés de France pour mater les mineurs. Le bilan fut lourd. 6 morts, des milliers de blessés, près de 3 000 mineurs arrêtés, 1 500 emprisonnés. 3 000 licenciés et une centaine de délégués mineurs révoqués. Les prisons du Nord-Pas-de-Calais débordent de militants de la CGT et du Parti communiste. Les mineurs, héros de la reconstruction de la France d'après-guerre, deviennent, aux yeux du gouvernement, le fer de lance de l'insurrection dirigée par le Comintern. Norbert Gilmet avait 27 ans en 1948. Il était employé administratif des houillères à Mazingarbe, mais aussi le secrétaire politique du Parti communiste de Mazingarbe. Comme des milliers de ses camarades, il fut licencié, expulsé de son logement, avec sa femme enceinte et son fils de 3 ans. Toute sa vie, il s'est senti humilié, déshonoré par ce qu'il avait subi. Et avec 16 autres familles, il a mené bataille devant les tribunaux pour que cette injustice soit reconnue. Et voici quelques mois à peine, la cour d'appel de Versailles leur a donné raison en prononçant la nullité de leur licenciement. Formidable victoire que celle de la dignité retrouvée. Norbert Gilmet a aujourd'hui 89 ans et il est allé défendre la cause des mineurs grévistes devant les tribunaux. Nous le rencontrons aujourd'hui à Grenay, près de chez lui, pour revenir avec lui sur ces événements tragiques.
Je crois que la cour d'appel a été bien sage, hein, et bien légale, puisque la grève étant un droit constitutionnel, garanti en plus sans restriction par le statut du mineur, nous avions donc le droit de faire grève. Hein. Une grève qui n'était pas une grève insurrectionnelle comme a voulu le faire croire Jules Mogg, mais une grève pleinement revendicative. Le soutien est venu de tous les pays. John Lewis a dénoncé les méthodes totalitaires, c'était un dirigeant syndical américain, les méthodes totalitaires du gouvernement français, ce qui nous ramène à ce que j'ai déjà dit, il y a eu terrorisme contre les mineurs.
Terrorisme ?
J'ai dit terrorisme, je l'ai écrit au ministre, et je l'ai rappelé devant la cour d'appel de Versailles, j'ai dit, Jules Moch, il voulait tout de suite créer la peur. Et au quatrième jour de cette grève, le mineur Jean Sec était massacré. Non pas tué par une balle perdue, ou une balle même tirée directement. Il était massacré sur place, à coups de crosse, par des CRS déchaînés. Pourquoi ? Quelques jours après, on le savait, on avait fait croire à ces CRS que la population lorraine était hitlérienne. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'époque, moi qui ai eu mon oncle massacré par les Allemands, un neveu de 22 ans fusillé à Arras. Est-ce que j'aurais été pris si j'avais été CRS dans cette hystérie guerrière ? C'est bien Jules Moch qui avait choisi la force, la violence. Il voulait faire peur. À Versailles, j'ai rappelé...
Vous étiez présent donc à l'audience ?
J'ai été à toutes les audiences des prud'hommes et à l'audience de Versailles, j'étais présent.
Et donc, vous avez accusé devant les tribunaux l'État de terrorisme.
J'ai dit, j'accuse l'État de terrorisme. Et aujourd'hui, j'ajoute, il y a eu la torture. J'ai fourni au juge à Versailles la barrette de Léon Léglise. La barrette, c'est le couvre-chef des mineurs. C'est du cuir, c'est très dur. C'est pour les protéger, c'est un casque. Et j'ai posé cette barrette de Léon Léglise. Léon Léglise, c'était un résistant de la première heure. Il avait participé à la grève de mai-juin 41 contre l'occupant. Il a donné ses dernières forces dans la bataille du charbon. On a appelé les mineurs à redoubler d'efforts pour fournir le charbon, pour remettre toute l'industrie française. Parce que à l'époque, l'industrie française marchait à l'électricité, mais l'électricité fournie au charbon. Des usines marchaient même directement au charbon. Il n'y avait pas d'autres ressources. Et l'industrie française a été remise sur pied très rapidement grâce au sacrifice des mineurs. Parce que c'était dans des corps affaiblis par les privations de la guerre.
Et alors, Léon Léglise, il avait participé donc à tout ça ?
Léon Léglise a participé à cette bataille du charbon. Il n'a pas pu la continuer jusqu'au bout. Parce que silicosé, par décision médicale, il avait tant qu'été remonté au jour, il avait eu un travail au jour, vous saisissez, à la surface, donc il ne descendait plus dans les poussières du fond. Et à l'issue de la grève s'est terminée le 29 novembre officiellement, Léon Léglise avait repris le travail en punition parce qu'il avait fait grève. On l'a remis au fond. Et j'ai fourni donc au juge la barrette de Léon Léglise et l'article de presse de 1948 qui indiquait qu'on avait remis Léon Léglise silicosé au fond de la mine, qui indiquait aussi qu'à Bruay-en-Artois, on avait remis des silicosés à la benne. À la benne, c'est directement à la production du charbon. On fait du charbon et on remplit une benne. Alors, ce sadisme gratuit, c'était vraiment plus que la torture et je l'ai dit au juge...
La justice a fini par leur donner raison, mais il aura fallu pour cela attendre 60 ans.
RTL, 11 mars 2011.
17 anciens mineurs du Nord-Pas-de-Calais avaient été licenciés par les Charbonnages de France pour avoir fait grève à l'automne 1948. La cour d'appel de Versailles a fini par reconnaître que ces licenciements étaient discriminatoires et qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer la prescription, même longtemps après les faits. Et au fond, cette victoire est amère pour les mineurs.
Sur les quelques 3000 gueules noires licenciées à l'époque pour fait de grève, seuls 17 se battaient encore pour obtenir réparation. Les familles vont chacune recevoir 30 000 euros de dommages et intérêts, une somme qui ne compensera jamais le déclassement social de ces mineurs.
Bon, je m'appelle Thiénot Grimbach et je suis avocat depuis bien longtemps. Et quand j'étais petit, on continuait à dire que le militantisme, c'était la jeunesse du monde. Donc ça va, on continue comme ça, c'est bon.
Ce qui est exemplaire dans l'affaire de ces mineurs de 48, c'est de jamais lâcher l'os, de dire tant qu'on ne nous reconnaît pas dans notre dignité, on va lutter. Et Norbert, il vit là-dedans, lui. Mais alors, bon, il a été extraordinaire, c'est à la cour d'appel. Donc à la cour d'appel, on a plaidé. Et à la fin, la présidente de la cour d'appel, elle a dit « Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole ?» Et lui, il s'est levé et il avait préparé un texte. Et il a pris la parole pendant 3 quarts d'heure. Tout, il a tout dit. Mais il a commencé en disant « Bon, ben, je sais qu'on va perdre, hein, parce que vous êtes aux ordres du capital. » Je sais qu'on va perdre et que vous allez faire ce qu'on demande de vous, etc. » Et les 3 magistrats, ils ouvraient les yeux comme des billes. Et la présidente, la pauvre, elle a dit, au lieu de lui dire « Mais écoutez, c'est vous », elle lui dit « Mais non, comment vous... » Et elle a commencé à lui expliquer non, que la justice était indépendante, qu'il pouvait, qu'il serait jugé en fonction de ce que pensaient les magistrats. Voilà, donc c'était un moment comme ça... étonnant dans une audience où sa présence valait symbole, quoi. Un symbole de la vie, pas un symbole de l'ancien temps. C'est un symbole d'aujourd'hui, ce vieux-là. Je dis ce vieux, moi j'ai 73 ans, donc je ne devrais pas dire ça, mais il est plus vieux que moi. Et il est debout. Le dernier des Mohicans, c'est celui qui continue. Donc il y aura toujours un Mohican avec nous. Et eux, c'est nos Mohicans.
C'était le deuxième volet de la grève des mineurs de 1948, une nouvelle diffusion d'un reportage de Charlotte Perry du 15 juin 2011. Merci à Thiénot Grimbach, Norbert Gilmé, Roland Trempé, Colette Lebrun, Éloi Vasseur. Merci aussi à Cyril Fruchard et Alain Duty. Et un grand merci également à Catherine Louise de l'INA. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site la-bas.org. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'émission sur sa page Facebook. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux et Cédric Lalanne. À la réalisation, Bertrand Chaumeton, assistante Marina Touillez. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Notez bien le numéro de téléphone, le 01 56 40 37 37. Demain, dans l'émission Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet, nous continuerons avec le 3e et dernier épisode des émissions consacrées à la grève des mineurs de 1948. Bienvenue sur France Inter si vous venez de nous rejoindre.
Tabac Info Service, bonjour.
Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais arrêter de fumer, mais j'ai peur de pas y arriver toute seule.
Si vous voulez, je peux vous proposer d'être accompagnée par un de nos tabacologues.
Ah oui, ça m'aiderait, mais c'est payant ?
Non, en fait, seul ce premier appel est facturé 15 centimes la minute. Mais ensuite, le suivi fonctionne par rendez-vous. Vous serez rappelé gratuitement au moment où vous le désirez.
Ah, très bien. Je peux commencer maintenant ?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
Dans quelques minutes, juste après les infos, place à la musique avec Frédéric Lodéon pour son Carrefour de l'Odéon. Aujourd'hui, promenade en Italie et rencontre avec de grands classiques allemands. Et puis, à 17h, dans l'émission de François Bunel, le grand entretien, son invité sera Rojdi Zem. Vous écoutez France Inter, il est 16h.
Les informations, Audrey Tison, bonjour.
Bonjour. Xavier Bertrand veut assouplir l'organisation du travail au lendemain de la publication des mauvais chiffres du chômage. Le ministre du Travail relance l'idée de pacte compétitivité-emploi et de chômage partiel. Ce système permet aux entreprises d'adapter le temps de travail en fonction des commandes tout en maintenant les emplois. La CGT s'y oppose. Ces propositions-là ont déjà été faites. Sixième jour de grève dans les transports en commun de Saint-Étienne. Les chauffeurs ont reconduit le mouvement pour une durée illimitée ce matin. Ils réclament des meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire d'au moins 2%. Conséquence des retards importants sur la plupart des lignes de bus et de tramway stéphanois. Nicolas Sarkozy va bientôt recevoir un kit de survie pour SDF. C'est une association humanitaire lilloise qui lui a envoyé. Le groupe de secours catastrophe français veut sensibiliser le président au sort des sans-abri. Il réclame des mesures concrètes. Prudence sur les pistes de ski. Hier, un jeune de 19 ans s'est tué lors d'une descente nocturne sur la station de la Bresse dans les Vosges. Ce jeune Alsacien est apparemment tombé après avoir perdu le contrôle. La piste était en bon état, affirme la station. Une ancienne employée de banque accusée d'escroquerie près de Chinon. Elle est présentée à un juge cet après-midi. La quinquagénaire aurait proposé des faux placements à des dizaines de personnes, soutirant ainsi des centaines de milliers d'euros. La presse l'appelle déjà la Madoff du Chinonais. Les opérations avancent bien autour du cargo TK Bremen échoué sur une plage du Morbihan. Les étapes préparatoires au démantèlement sont maintenant achevées. Le carburant a été pompé, les meubles et le matériel amovible ont été retirés. Les travaux de désamiantage doivent débuter d'ici quelques jours et la déconstruction sera achevée d'ici un mois, assure la société de démolition néerlandaise. Situation de plus en plus préoccupante à Homs, en Syrie. Des coups de feu ont retenti en pleine visite d'observateurs de la Ligue arabe. Cette ville du centre de la Syrie est le bastion de la contestation contre Bachar el-Assad. Des témoins ont fait état de dizaines de milliers de manifestants tentant de s'approcher des observateurs pour témoigner de leur souffrance. Mais les forces de l'ordre disperseraient la foule. En Russie, l'intransigeance de Vladimir Poutine. Pas question de revoir les résultats des législatives, comme le réclament les manifestants. L'homme fort de Moscou affirme qu'il n'aura pas besoin de tricher pour gagner la prochaine présidentielle. D'après lui, l'opposition russe n'a ni leader ni programme unifié. La France répond à l'appel de la Pologne. L'État débloque 5 millions d'euros pour le camp d'Auschwitz-Birkenau, somme destinée à permettre la préservation de l'ancien camp d'extermination. D'autres pays vont participer pour réunir en tout 97 millions d'euros.
Si Paolo m'était compté. Avec Arthur Dreyfus.
Paolo Conte. Sa planète gravite autour du blues, du jazz, du whisky irlandais et des glaces au citron. Entre ses secrets en musique, ses musiques secrètes, des reprises inédites et les confessions de ceux qu'il aime, bienvenue dans la Divine Comédie.
Si Paolo m'était compté. Sur France Inter, le 31 décembre, à partir de 20h15. France Inter. La différence.
Il est 16h03 sur France Inter, lors de Carrefour de l'Odéon, avec vous, Frédéric Odéon.
Bonjour Audrey. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, un instrument qui a quelquefois un peu épuisé certains enfants et certains parents. À l'école, on enseignait pas mal la flûte à bec pour apprendre la musique autrefois. Puis quelquefois, ces instruments n'étaient pas toujours très justes, fabriqués un peu à la hâte, de manière industrielle et approximative. Mais pourtant, la flûte à bec avec de bons virtuoses, bah, ça peut être tout à fait passionnant. Voici par exemple un concerto en sol majeur d'Antonio Vivaldi. Et l'Allegro Molto va fuser immédiatement. Thank you. Allegro molto d'un concerto en sol majeur pour flûte avec soprano d'Antonio Vivaldi, en soliste Dorothée Oberlinger, avec les sonatories de la Gioiosa Marca, la Marca ou les Marches, comme on dit en français, mais c'était les terres, elles existent toujours, mais les terres fermes appartenantes à Venise, tout simplement. Gioiosa, bah, on est joyeux là-bas, on l'entend. Et voici une anecdote rapportée par un musicographe anglais, Charles Burney, en 1771, et il nous parle de Tartini, autre célèbre compositeur italien. Et il raconte que Tartini avait fait un rêve en 1713, une nuit de l'année 1713, il avait fait un rêve et il avait conclu un pacte avec le diable dans ce rêve, bien sûr, seulement. Il s'était engagé à le servir. Et tant que dura cette vision, tout lui souriait, ses vœux se réalisaient et ses désirs se voyaient plus que comblés grâce au concours de son nouvel assistant. Ah oui, au pied fourchu, bien sûr. Alors il imagina qu'il tendait son violon au diable pour découvrir quel genre de musicien il était. Quand il l'entendit jouer seul, à solo, comme a écrit Burney, avec une beauté aussi unique, ce fut avec un goût et une précision d'une supériorité telle que cela dépassait toute la musique qu'il avait pu entendre ou concevoir au cours de sa vie. Son étonnement fut si grand et sa joie tellement extraordinaire qu'il en eut le souffle coupé. Il s'éveilla en sueur et prit immédiatement son violon dans l'espoir d'exprimer ce qu'il vient d'entendre. En vain, il composa une pièce qui est peut-être la meilleure de toutes ses œuvres, Tartini, mais bon, ça ne lui a pas plu complètement. Il l'appela le tri du diable, mais elle était tellement ordinaire par rapport à ce qu'il avait produit dans son sommeil, s'il croyait qu'il avait produit en tout cas, qu'il n'aurait pas hésité à briser son instrument et à renoncer définitivement à sa musique s'il avait su comment gagner sa vie autrement. Eh ben oui, mais vous savez, quelquefois aussi, on nous raconte qu'on compose une chanson avec pas mal d'alcool dans le sang et on croit qu'on est génial. Puis après, on réécoute quand on est à jeun et c'est moins bien. Néanmoins, c'est quand même une très belle composition que cette sonate du Tri du Diable, arrangée là pour violon et piano par Fritz Kreisler, autre grand violoniste, mais viennois, est venu bien après, à la fin du 19e siècle. Allegro, Energico.